Jouer à passe
à passe gros.
Jouer à passe gros.
Oui. Bon, quand on avait les feuilles de maïs, bien sûr, il restait les feuilles de maïs. Hein. Alors voilà comment ça se passait à l'Anne-Mezan. On était convoqués chez une amie, jeunes gens, jeunes filles, voisins, voisines. Enfin, on se retrouvait, mettons, une trentaine de personnes dans une vaste salle commune qui était la cuisine, qui servait de chambre, qui servait de tout. Et alors, bon, les maïs avaient été rentrés dans la grange. Il y avait des personnes qui étaient chargées de porter des sacs de maïs à ceux qui étaient chargés de les effeuiller. Et puis, il y avait deux choses là. Ou bien, le maïs était un petit maïs quelconque, alors on enlevait complètement les feuilles et il repartait pour aller faire du grain. Ou bien, on avait la chance de tomber sur un joli épi de maïs. Alors à celui-là, on ne faisait qu'ouvrir les feuilles, mais on n'arrachait pas les feuilles. Et on passait les beaux épis à deux ou trois messieurs qui étaient spécialistes, qui étaient assis, je les revois encore assis au coin du feu, et qui faisaient les tresses. Parce que ces tresses de maïs, on allait ensuite les pendre dans le grenier, et on s'en servirait pour faire les semences de l'année suivante. Tu vois. Bon. Alors, quand on avait fini de feuiller le maïs, bien sûr, il y avait toutes les feuilles qui étaient restées là parce qu'on ne les avait pas évacuées au fur et à mesure, les feuilles. On évacuait les carouilles, mais on n'évacuait pas les feuilles. Alors, c'est à ce moment-là que tous les jeunes s'asseyaient en rond, les uns à côté des autres. On attrapait la sandale, le chausson plutôt, puisqu'on était en général tous en sabots et en chaussons à l'époque. Alors, on attrapait le chausson de l'un. Et on faisait passer un peu genre il court le furet, ah, tu vois. Ouais. C'était la groule qu'on faisait passer dessous les jambes, comme ça. Et alors il y en avait un qui était au milieu.
Qui cherchait.
Et qui était. Oui, qui cherchait la groule. Cercavo so che pudio, tu comprends. Et comme il y avait des jeunes filles, qu'à l'époque elles ne portaient pas des pantalons, ils plongeaient comme ils pouvaient pour aller attraper la groule ou les gâteaux ou d'autres causes. Et alors ça, c'était un jeu auquel. Que l'on faisait durer un moment. Autre chose d'intéressant aussi, chaque fois qu'il y avait, qu'on trouvait un maïs rouge, de temps en temps, il y avait un épi de maïs rouge. Et alors celui qui avait la chance de tomber sur l'épi de maïs rouge, il avait le droit d'embrasser toutes les filles qui étaient là, ou si c'était une fille, elle se devait d'aller embrasser tous les garçons. Et tu sais que les jeunes filles et les jeunes gens ont toujours aimé la chose. Alors bon, ça... Ça agrémentait un petit peu la soirée, qui se terminait ensuite, bien sûr, par les châtaignes et le cidre doux ou les binouvelles. En fait, ça dépendait des endroits et de ce qu'on avait récolté. Mais c'était quand même une soirée intéressante. Et puis, tout au long de la soirée, on chantait quand même. Hein. Les chansons anciennes ou les chansons de l'époque, mais enfin, tout au long de la soirée, ça chantait tout en travaillant. C'était... des veillées vraiment agréables. J'ai eu la chance de pouvoir vivre ces veillées. Et puis j'ai eu la chance aussi de vivre à Longage, qui était un pays de vendage. Quand j'étais gosse, moi, entre 25 et 29, c'était le vendage. Hein. Et alors là, les vendages, là aussi, c'était quand même un travail quelquefois dur, mais auquel on savait donner beaucoup de joie et de gaieté, parce que dans les vignes, on riait, on chantait, puis on se moustait. Tu sais ce que c'est, oui. C'était amusant.
Ça existe encore. Et... En Palangodor, dans les pays de Vingt, une fois encore.
Oui, et alors à la fin, il y avait les accavailles, un repas du tonnerre, où alors là, on s'est donné à cœur joie de chanter, puisqu'en fait, ce qui comptait surtout, c'était chanter à l'époque. C'était la seule distraction que l'on avait, et c'était la seule façon que l'on avait d'exprimer l'âme d'un groupe, ce qui est de plus en plus difficile maintenant, parce que pour arriver à trouver un groupe... qui, quelquefois, me demande « qu'est-ce que vous appelez l'animateur ?» Parce que maintenant, l'animateur, c'est le grand mot de cette fin du siècle. On anime tout, tout et rien. Il y a alors, à tel point que, je m'excuse, c'était une histoire amusante, mais je faisais partie du jury pour l'élection de Miss Toulouse il y a 2 ans, là, qui devait compter pour l'élection de Miss France. Et alors, on a demandé aux filles qui se présentaient ce qu'elles faisaient. Et il y en a une qui m'a dit « je suis animatrice ». Alors, ça m'a beaucoup intéressé. Je lui ai dit, voyons, animatrice en quoi ? En charcuterie, elle m'a répondu. Et il s'est trouvé qu'elle vendait de la charcuterie dans des grandes surfaces. Ça s'appelle animatrice. Oui. Oui, à l'époque, il n'y avait pas besoin d'animateur parce que, tu comprends, d'abord, tous les groupes sociaux, culturels, c'est comme ça qu'on dit maintenant, avaient un fonds commun bien assis, où chaque génération avait apporté une petite pierre, mais enfin, le fonds commun que l'on avait, on le connaissait, tout le monde le connaissait. Ce qui fait qu'à un moment précis, ça partait, on ne savait pas qui le faisait partir, mais ça partait inconsciemment, et tout le monde connaissant les mêmes chansons, tout le monde chantait la même chose au même moment, et ça marchait très bien. On n'avait pas besoin d'un animateur. Il y avait bien sûr, il y a toujours eu des bouts en train, il y a toujours eu les gars comme disent, allez, tu, cantons aquel, alors, parce que chacun avait sa spécialité, les chansons du moment. Mais autrement, quand il s'agissait de chanter en chœur et en commun, là, il n'y avait aucune histoire. Tout le monde partait, et ça partait tout seul. Ça, c'était vraiment bien. Ce qui était intéressant, peut-être à noter, du point de vue chant, dans les Pyrénées, je saute un peu du coq à l'âne maintenant, c'était la polyphonie vocale naturelle des gens des Pyrénées. Tu vois, j'ai vécu donc à Casaril, de Luchon, où mes élèves avaient des voix. Avec 12 élèves, j'arrivais à faire des chœurs à 3 voix, des belles voix, chaudes, rythmées, enfin, bien timbrées qui marchaient. On allait à la messe, à Casaril, les cantiques, automatiquement, les paysans chantaient à 3 voix, ça partait tout seul. Alors évidemment, c'était basé sur l'accord parfait, hein. c'était pas des harmonies extraordinaires, modernes, mais si tu veux, personne ne leur avait appris à chanter à 3 voix, mais automatiquement, ça partait tout seul, ou au moins à 2 voix. Tu feras la naute, je ferai l'œil basse, et ça partait tout seul. Dans le Lauragais, quand j'y suis arrivé, c'était pas du tout la même chose. Les gosses ne chantaient pas avec autant de plaisir. On sentait que ça n'était pas tellement... ils n'avaient pas l'écho des montagnes pour leur renvoyer la voix. Hein.
Ah,
oh, quand je suis arrivé, que j'ai voulu faire chanter mes gosses pour la première fois dans ce village, je dis, mais c'est pas vrai. Je suis rentré à la maison, le lendemain, je dis, mais jamais je n'arriverai à faire chanter ces enfants. Et il faut dire que l'institutrice qui avait été avant moi ne les avait peut-être pas fait chanter, que chez eux, on ne chantait pas. Alors évidemment,